Mexico annonce une action très forte contre les rebelles des ADF. Ceci au lendemain de l'attaque armée qui a coûté la vie à deux casques bleus dans la région de Beni. De son côté, le gouverneur du Nord Kivu a indiqué que le gouvernement congolais prenait au sérieux ce qui se passe dans cette province et promet de prendre des mesures qui s'imposent pour mettre fin à cette situation. Quelle analyse faire de la situation sécuritaire à Beni? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Général Jean Bayot. Bonsoir, Général Jean Bayot.
Bonsoir.
Vous êtes commandant second de la force de la MONUSCO. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Jacques Ouondo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes expert militaire et analyste politique. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Professeur Bob Kabamba, on me signale qu'il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Il est professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Entre-temps, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, accompagné du gouverneur du Nord Kivu, ont visité ce mercredi le lieu de l'embuscade qui a coûté la vie à deux casquettes bleues. C'est à plus de 30 km au nord de la ville de Beni, lieu appelé Kisiki. Martin Kobler et Julien Paluku sont allés s'imprégner de l'ampleur de cette embuscade qui a coûté la vie à deux casquettes bleues tanzaniens. Les deux personnalités condamnent cette attaque ciblée contre les casquettes bleues. Reportage Denise Loukesson.
Martin Kobler estime qu'il est temps d'agir conjointement avec les FRDC pour en finir avec les rebelles terroristes de l'ADF.
Ces criminels attaquent la population, les FRDC, les civils et maintenant aussi la MONUSCO. On ne peut pas le tolérer, ça nécessite une réponse très très robuste. Il faut vraiment réétablir, reprendre la pleine coopération avec les FRDC parce que seulement si nous réagissons la main dans la main contre les terroristes et contre cette atrocité qui menace la population, on aura du succès.
Tout en compatissant avec la MONUSCO et les FRDC, pour sa part, les gouverneurs des provinces pensent qu'il faut analyser en profondeur ces modes opératoires.
Maintenant, ils ciblent les FRDC, ils ciblent la MONUSCO. Ça montre qu'il y a quelque chose que nous devons approfondir pour comprendre pourquoi ce changement de tactique, pourquoi cette fois-ci le changement de cible. Et pour nous, nous pensons que, et au niveau des Nations Unies, à travers la MONUSCO, et au niveau des FRDC, nous devons activer nos services de renseignement pour que finalement des dispositions soient prises pour qu'ensemble nous puissions éradiquer ce fléau qui veut s'installer ici.
Rappelons que cette embuscade a fait 2 morts et 13 casques bleus tanzaniens blessés, ainsi que 3 civils dont un chauffeur et son convoyeur d'un véhicule, ainsi qu'un motard. Beni, Denise Loukesso, Radio Capi.
Arrivé à Beni hier mercredi, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, a déclaré que le gouvernement prend au sérieux ce qui se passe dans sa province et ne va pas se limiter à dénoncer. Le gouvernement va aussi prendre des mesures qui s'imposent pour faire face aux différentes attaques que subit la province. On écoute le gouverneur Julien Paluku au micro de Denise Loukesso.
Comme vous le savez, ça fait une semaine que j'avais dénoncé à Goma à l'incursion des forces armées rwandaises sur le sol congolais. J'avais même dénoncé la création de nouveaux mouvements. Le 5, il y avait une grande réunion qui sort aussi en face de Bunagana, présidée par Bertrand Bisimwa, avec 4 plans à l'ordre du jour. Nous avons reçu les comptes rendus, parmi lesquels les déploiements dans les prochains jours des forces rebelles dans les territoires de Rutshuru. Vous savez que lorsque j'avais dénoncé l'incursion des armées rwandaises sur le sol congolais, la société civile avait dénoncé aussi quelques incursions des éléments non autrement identifiés sur le sol de Beni et nous pensons que cela risque de se confirmer avec ces attaques qui viennent d'avoir lieu sur nos positions et à l'arme lourde qui sont différentes des attaques à la machette. Donc nous devons rapidement comprendre tous ces jeux, toutes ces questions et c'est la raison pour laquelle au niveau du gouvernement central on devra prendre au sérieux ce qui se passe au Nord Kivu au lieu que certains pensent que c'est des faits mineurs ou des faits qui sont à minimiser.
Général Jean Bayot, je rappelle que vous êtes commandant second de la force de la MONUSCO. Général, pour commencer, dites-nous dans quelles circonstances s'est passée l'attaque qui a causé la mort des casques bleus.
Écoutez, cette attaque qui s'est produite avant-hier à 18h15 a en fait ciblé un convoi de troupes tanzaniennes de la brigade d'intervention qui opère en fait, depuis la fin de l'année 2013 dans la région de Beni, il faut quand même le rappeler. C'est une embuscade qui a malheureusement coûté la vie à deux de ses soldats, qui a aussi blessé par balle environ 13 de ses hommes, et comme ça l'a été rappelé, a aussi coûté la vie à trois civils qui ont été tués dans un incident qui a eu lieu quelques secondes juste avant.
Alors, Général, cet incident survient quelques jours après qu'un hélicoptère de la MONUSCO ait été touché par des tirs en provenance d'éléments armés non identifiés dans la même zone. Y aurait-il un lien entre les deux événements?
En fait, il y a probablement un lien, mais je pense qu'effectivement, comme l'a souligné le gouverneur du Nord Kivu, il y a certainement des développements qui sont nouveaux. Ce n'est pas dans l'habitude d'ADF de tirer sur nos hélicoptères, ce n'est pas dans l'habitude d'ADF de faire des embuscades contre la MONUSCO. La dernière, en fait, qu'ils avaient commise avait eu lieu à l'est de Mbao en juillet 2013. Donc, on assiste actuellement à un changement de tactique, ou peut-être, mais là je ne veux pas rentrer dans les spéculations, à soit l'engagement de renforts, soit à l'action complémentaire d'autres acteurs.
Mais Général, quels sont les éléments à votre disposition qui prouvent que ces assaillants seraient des ADF?
Bon, alors, vous me demandez des éléments de preuve, et effectivement, je pense qu'il est très important de commenter des faits, et non pas uniquement des spéculations. Il y a beaucoup de spéculations dans tout ce qui se passe autour de Beni, et j'en profite effectivement pour dire que la MONUSCO, bien sûr, va conduire sa propre enquête, mais que nous souhaitons aussi, bien sûr, contribuer à, on va dire, une analyse approfondie de ce qui s'est passé. Il y avait un certain nombre de témoins dans la zone. C'est une zone, effectivement, de passage. On était avant le coucher du soleil. Il n'y avait pas de couvre-feu. Il y a des gens civils aussi qui ont été impactés par cette affaire. Il est très important que, au-delà des spéculations, nous allions effectivement au fond de la vérité, que nous sachions exactement ce qu'il s'est passé. Et comme je l'ai dit, nous allons aussi, nous conduisons également notre propre enquête de manière à tirer tous les éléments et surtout avoir des faits. C'est ça qui est très important.
Et donc,
maintenant, très rapidement, pour revenir à votre question, je dois tout d'abord rappeler que ADF n'a pas encore été vaincu. Le sacrifice des forces de l'armée de la République démocratique du Congo, le sacrifice malheureusement aussi des populations, l'appui de la MONUSCO ont permis des résultats très substantiels. Nous espérons aussi qu'à l'extérieur de votre pays, des actions se développent de manière à couper les réseaux de soutien, de recrutement, et aussi arrêter les chefs et ceux qui les soutiennent. Mais ADF reste encore une menace et continue à opérer dans la région de Beni. En revanche, il n'est pas du tout à exclure que d'autres acteurs, pour des intérêts personnels, pour des intérêts économiques ou autres, profitent de la situation ou éventuellement veuillent se substituer à lui. Donc c'est pourquoi il est très important d'aller au fond de la vérité, de conduire sur le terrain, avec toute l'expertise voulue, une analyse complète de la situation, de manière à nous amener à une seule chose que les populations de la région, de pays et de toute la sous-région souhaitent, la paix dans la région.
Et donc, à comprendre vos propos, Général Jean Bayou, en attendant les enquêtes, il est trop tôt de confirmer que ce sont les ADF qui sont les auteurs de ces attaques.
Écoutez, oui, ma réponse est oui. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à de simples éléments partiels. Mais comme je l'ai dit, et je pense que c'est un point extrêmement important, ADF a été affaibli. ADF est en cours, on va dire, de neutralisation, d'éradication. ADF est toujours une menace pour les populations et c'est un groupe criminel. Donc moi, je pense quand même que la probabilité qu'ADF soit derrière cette action est quand même extrêmement forte.
Alors, Général Bayo, vous parliez tout à l'heure, le gouverneur Julien Paluku l'a dit, s'agirait-il d'un changement de tactique?
Alors, ceux qui vivent dans la région savent que ce groupe, qui en fait, d'une manière ou d'une autre, opère depuis plus de 20 ans, a souvent changé de mode opératoire. Aujourd'hui, il fait face à une pression très importante qui vise non seulement ses derniers repères dans lesquels il se trouve caché, qui vise également dans la région de Béni ses réseaux de soutien divers, mais également au-delà des frontières, qui affaiblissent très certainement son leadership. Si un certain nombre de ses chefs sont arrêtés ou neutralisés, il est tout à fait logique qu'il change de tactique. Je pense que c'est un adversaire très redoutable, très secret, qui est parfaitement capable de comprendre une grande partie des actions qui sont menées contre lui et qui en permanence s'adapte à la situation. C'est peut-être ce que nous voyons aujourd'hui.
Merci Général, je vous redonne la parole tout à l'heure. Jean-Jacques Ouondo, vous êtes expert militaire et analyste politique. Comment vous analysez la situation sécuritaire qui prévaut actuellement à Béni?
Oui, bonjour. Je pense qu'à ce stade, il est difficile de donner, de faire un état des lieux exact de la situation, sinon que l'enquête n'a pas abouti, donc nous pouvons qu'émettre des hypothèses. Et l'hypothèse qui saute aux yeux nous conduirait plutôt vers la piste des supposés Adef Nalou, pour la simple raison que on pourrait, par exemple, interpréter cette attaque qui est plutôt une attaque ciblée vers des troupes bien définies, c'est-à-dire des Tanzaniens, et on peut faire le rapport avec l'arrestation récente de leur chef Jamil Makulu à Kidoma en Tanzanie. Et ce n'est qu'une piste qu'on développe parce que si on analyse d'autres faits, la zone d'attaque est une zone qui est aussi occupée par d'autres contingents de la MONUSCO, particulièrement les Palais, qui continuent à faire des patrouilles dans la zone, mais on se rend compte que ces Népalais n'ont pas été la cible de ces assaillants, mais on a plutôt visé les Tanzaniens. Donc c'est une piste qui est plausible, mais au-delà de cette action, il faut plutôt rester assez prudent sur les auteurs de ces actes, comme l'a dit le général tout à l'heure. C'est vrai qu'on peut s'orienter vers la piste des Adef Nalou, mais quand on voit la manière dont les Adef Nalou évoluent aujourd'hui avec un groupe qui est estimé à moins de 1000 unités, donc moins de 1000 combattants, je pense que les dernières statistiques militaires qui nous sont parvenues les estimaient autour de 600 combattants, et que ces mêmes combattants qui ont subi les opérations, notamment l'opération qui a commencé depuis janvier 2014, a connu des pertes surtout au début, avant les effets du général Bahouma. Donc ici se pose vraiment un problème de ravitaillement et de base arrière. Et quand on voit la structure même de ces Adef Nalou, on sait que derrière les Adef Nalou, c'est toute une toile d'araignée qui fait créer, et qu'il y a des ramifications transfrontalières qui ont aussi de complicité au niveau de la population et même au niveau de certains services de sécurité, parce que en 2012 il y a eu un rapport qui a été élaboré par l'International Project Group qui a même demandé à ce qu'on permette assez régulièrement certains officiers ougandais et rwandais et congolais qui évoluaient dans cette zone pour éviter qu'il y ait de complicité avec ces Adef Nalou qui, depuis quelques temps, ne sont plus dans une logique de la guerre de libération contre l'Ouganda, mais c'est une rébellion étrangère qui s'est plutôt congolisée et menée plus ses actions au niveau du Congo et qui évolue plus dans un domaine de criminalité économique avec des ramifications socio-économiques qui va pratiquement dans tous les pays frontaliers. La question qui nous interpelle aussi en tant qu'analyste, c'est de demander comment cela peut il arrivait alors qu'il y avait une opération qui est menée depuis plus de 15 mois sur le territoire, et cela suscite des interrogations sur l'efficacité d'abord de l'opération Sokola 1, qui ne permet pas au niveau des autorités congolaises à restaurer l'autorité de l'État sur cette partie du territoire, mais de l'autre côté aussi, on se pose la question sur l'efficacité de la MONUSCO. Depuis l'année passée, la MONUSCO a pratiquement déménagé son quartier général vers l'est pour concentrer son effort principal. Et malgré ça, on se rend compte que la zone reste non pacifiée.
Jean-Jacques,
pose vraiment de sérieux problèmes sur ces aspects qui exigent qu'une analyse beaucoup plus sereine soit faite, parce qu'actuellement, beaucoup de questions autour de même de l'efficacité ou du maintien de la MONUSCO s'orientent sur des aspects politiques, mais les aspects techniques ne sont pas vraiment mis en avant, de sorte que cette zone puisse être pacifiée convenablement, parce que la MONUSCO a l'objectif de la stabilisation, mais ici, on ne peut pas arriver à la stabilisation tant qu'on n'a pas, on ne parvient pas à pacifier la zone.
Voilà, Jean-Jacques Oundo, très brièvement, avant que je ne donne la parole au professeur Bob Kabamba, les ADF ne profiteraient-ils pas des divergences entre la MONUSCO et les FARDC concernant les opérations contre eux? Brièvement, s'il vous plaît.
J'ai une mauvaise audition.
Voilà, je vous repose la question tout à l'heure, le temps de prendre. Professeur Bob Kabamba, bonsoir, vous êtes en ligne.
Oui, bonsoir, bonsoir, auditeurs et auditrices.
Voilà, vous avez suivi Général Jean Bayeux ainsi que Jean-Jacques Oundo dans leurs analyses. Professeur, vous, comment vous percevez ces attaques contre les casques bleus? Serait-ce les ADF auraient-ils changé de mode opératoire? Profiteraient-ils des divergences entre la MONUSCO et les FARDC quant aux opérations qui devraient être menées contre eux?
Merci pour la question. Il faut souligner deux choses. Il est incontestablement qu'il existe un noyau AFDL-NANU dans la région de Beni, mais ce petit mouvement est fortement, je dois insister sur cette question, est fortement affaibli depuis quelques semaines avec la décapitation de certains de ses chefs. Dans tous les mouvements, généralement, dans tous les mouvements rebelles qui sont basés généralement sur la personnalité de leur chef, lorsqu'on décapite le chef, on constate de manière très claire une espèce de décuplement de ces mouvements jusqu'à se réduire des fois même à disparaître. Et donc il y a cet élément qu'il faut prendre en compte. Par ailleurs, il y a aussi un deuxième élément qu'il faut aussi souligner, c'est que moi je pense qu'au-dessus de cet élément, au-dessus de cette chimère qui s'appelle, il y a toute une série d'autres groupes qui essayent de se regrouper pour essayer de se cacher derrière le vocabulaire AFDF-NALU pour pouvoir déstabiliser la région de la RDC à partir donc du nord Kivu. Parce que lorsque l'on analyse de près les différents rapports que nous avons reçus aussi via des ONG locales, ONG nationales et ONG internationales, il s'avère que les groupes qu'on appelle maintenant AFDF-NALU est composé non seulement de Rwandais, mais aussi de Congolais, des Ougandais, voire même des Tanzaniens. Ce qui veut dire, de manière très claire, sans ambiguïté, qu'on n'est plus en face avec un petit mouvement de rien du tout qui est confiné dans les montagnes congolaises, mais on est en face d'une structuration, d'un mouvement qui va prendre une dimension régionale et pas nécessairement une dimension comme on l'a connue et comme on le connaît depuis plusieurs années. Et donc, je pense de manière claire, sans ambiguïté, que nous sommes en face de la naissance d'un autre mouvement et qui va nécessairement arriver à se structurer et à sortir du bois dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. Parce que le mode opératoire que l'on voit avec ces ADF-NALU n'est pas sans rappeler aux origines de ce qu'on a appelé la guerre de la FDL, puisque je peux vous rappeler la guerre de la FDL à l'époque avait commencé aussi avec des revendications et avec des petits groupes locaux et qui, au fur et à mesure, se sont métamorphosés en mouvement régional et quitte à déboucher sur une rébellion comme on a connu avec la FDL et aussi comme avec le RCD. Et donc voilà en résumé ce que je peux apporter comme apport dans le débat avec mes différents collègues.
Alors, professeur, vous parlez de la naissance d'un nouveau mouvement. Ne seriez-vous pas en train de donner raison au gouverneur du Nord Kivu qui, il y a quelques jours, a également dénoncé la naissance d'un nouveau mouvement?
Ici, la naissance du mouvement que dont le gouverneur du Nord Kivu parlait, il parlait d'un mouvement chrétien. Mais par contre, ici, ce que je remarque, moi, de mon point de vue, c'est plutôt un autre groupe qui semble, d'après les rapports que nous avons lus, venant aussi de Human Rights Watch, venant aussi des ONG dans le Nord Kivu, ils insistent beaucoup sur l'aspect régional. Ils n'insistent pas sur l'aspect congolais. Ils insistent sur l'aspect régional, c'est-à-dire avec l'application des groupes qui viennent des différents pays. Et ça veut dire aussi que c'est quand même, si ce que là se confirme, ce qui veut dire que nous sommes en face d'une espèce pas internationale, mais régionale rebelle, qui va mener des dimensions, qui va détenir des scènes de stabilisation, aussi bien au Congo, mais aussi en Ouganda et peut-être aussi au Rwanda. Il y a cette dimension-là que je pense qu'il faut bien mettre en évidence de ce que j'ai, moi, compris par rapport à la naissance de ce nouveau mouvement, qui n'est pas nécessairement un mouvement typiquement congolais.
Alors, Jean-Jacques Ouhondo a tout à l'heure évoqué le fait que ces événements, pour lui, démontraient, posaient des questions autour de l'efficacité même de l'opération Sokola et voire même de la MONUSCO.
Ces mouvements, ces événements, on peut dire de manière claire, ça aussi c'est bien confirmé en fait notre hypothèse. C'est-à-dire que lorsque l'on voit qu'un mouvement qui est en train d'être décapité ne peut pas être en mesure de pouvoir avoir à mener des opérations à l'arme lourde, d'autant plus que l'on sait que depuis plus de plusieurs années, que les AFD et Pnalou n'ont plus la capacité de pouvoir mener des opérations avec des armes lourdes. Or, ici, il a été question à plusieurs reprises d'armes lourdes. Donc ici, de manière claire, sans ambiguïté, on peut penser effectivement qu'il y a d'autres forces qui se font passer pour les AFD Pnalou, ou bien qui veulent qu'on pense qu'ils sont des AFD Pnalou pour pouvoir mener ces opérations et se cacher derrière ces vocables.
Merci, professeur général Jean Bayo. Il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Isaac Bampoiki de Bukavu au sud Kivu. Fallait-il d'abord que les éléments de la MONUSCO subissent l'attaque de la part des ADF Nalu pour qu'une action très forte contre ces derniers soit décidée? Notre État doit tout mettre en œuvre pour se débarrasser de tous les groupes armés dont la présence n'est bonne qu'à entraver tout progrès. Non à la politique du berger mercenaire qui s'engraisse lui seul au détriment des brebis.
Réaction générale, fallait-il attendre que les casques bleus soient attaqués et qu'il y ait mort parmi eux pour que la MONUSCO puisse annoncer une action très forte contre les ADF?
Écoutez, moi je voudrais répondre à la fois à cet auditeur et puis aussi à ce qu'a dit l'un des intervenants sur l'efficacité de la réponse des opérations, mais aussi celle de la MONUSCO. Et je prends tout à fait honnêtement ces critiques ou ces commentaires. La première chose, et je suis bien placé pour en parler, c'est que l'action de la brigade d'intervention n'a pas commencé hier. Nous avons été déployés le 25 décembre 2013 et nous avons, je pense, joué un rôle fondamental pour empêcher ADF, qui déjà voulait prévenir les opérations qui se dessinaient au mois de janvier 2014, en appuyant la reprise de Kamango. Et je pense que la population de la région de Kamango, qui pour l'instant, heureusement, n'a jamais connu d'attaque récente, sait que notre présence dès le départ avec nos hélicoptères d'attaque, donc c'était une action de combat, mais aussi avec un déploiement très rapide de ces mêmes soldats tanzaniens, en tout cas le contingent qui les a précédés, dès le début des opérations, n'a pas été sans conséquence pour leur sécurité. Je ne vais pas citer maintenant l'ensemble des actions que nous avons faites, qui sont peut-être pas parfois spectaculaires, mais nous n'avons certainement pas attendu d'avoir malheureusement des morts au combat pour pouvoir opérer. La deuxième chose qui est importante de dire, et je pense que ça va dans le sens de ce qu'ont dit les experts qui interviennent dans cette émission, c'est la question de l'adéquation des capacités par rapport aux problèmes auxquels nous faisons face. Et comme cela a été analysé, nous assistons pour l'instant peut-être à une mutation, peut-être à la création de nouveaux groupes, peut-être aux deux choses d'ailleurs, mais surtout, je l'espère, à la disparition d'ADF, qui est un groupe qui a fait beaucoup de mal dans la région, et surtout qui a une nature terroriste et, je pense, une idéologie extrêmement néfaste qui ne me semble absolument pas en adéquation avec les valeurs de votre pays. Donc la question de notre adéquation et de l'adéquation des capacités, l'adéquation des plans d'opération et surtout l'adéquation du soutien qu'apporte la MONUSCO à ce mode opératoire sont des questions fondamentales. Je pense que ADF et les groupes qui tournent autour ont souvent su s'adapter effectivement aux opérations qui étaient menées contre eux. Et c'est peut-être aussi à ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Ce qui est très important, c'est que nous soyons très forts dans l'analyse de ce qui se passe, sur la base de faits, et que ensemble nous puissions déterminer les meilleurs modes opératoires qui ne sont pas que militaires, qui vont aussi au-delà des frontières. C'est important parce qu'il y a une vraie dimension régionale à ces problématiques et que la MONUSCO, qui dispose de capacités et qui a la volonté effectivement de les employer, soit le plus efficace possible pour servir en premier la sécurité des populations de la région de Béni.
Général.
J'accepte tout à fait le fait que, tant qu'il y a également des victimes et une menace pour la vie normale des populations de Béni, eh bien nous devons encore améliorer la façon dont nous opérons dans votre pays.
Général Jean Bayou, Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, a souligné le fait qu'il fallait absolument reprendre très rapidement la coopération avec les FARDC. Où en êtes-vous à ce jour dans les pourparlers?
Écoutez, moi-même, je reviens à l'instant de Kinshasa. Je pense qu'il y a un dialogue qui s'est ouvert avec le gouvernement, qui porte sur un certain nombre de volets. Ce n'est pas à moi ce soir de donner le détail de ce qui se dit, mais je peux simplement témoigner que ce dialogue permet effectivement d'aborder un certain nombre de questions de manière très franche et de faire des progrès. Maintenant, votre point, il se porte la concrétisation effectivement la coordination des opérations et sur l'action de la MONUSCO, on va dire, en appui des capacités congolaises, on va dire, dans un effort commun d'abord de neutralisation des groupes armés et de soutien, on va dire, à la normalisation de votre pays. Ces questions-là sont toujours en cours de règlement. En tant que militaire, en tant que responsable, on va dire, au sein de la force de la MONUSCO,
merci.
Je peux ajouter à ceux qui ont déjà témoigné de l'importance d'une reprise la plus efficace possible de ces opérations. Je pense que c'est ce que tout le monde attend et c'est merci. Ce que, en particulier, les populations de l'Est du Congo souhaitent.
Merci, Général Jean Bayou. Jean-Jacques Wondo, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kalima au Maniema.
Augustin Mwango, depuis Kalima, dans la province du Maniema. Cette situation montre bien que le gouvernement congolais est victime du triomphalisme après le départ du M23, donne raison à ceux qui disaient que le problème sécuritaire en RDC devrait être résolu globalement. Apparemment, nos dirigeants pensaient que la fin du M23 signifiait le retour de la paix. Or, la réalité nous prouve le contraire. Le retour de la paix à l'est de la RD Congo ne passera pas nécessairement par la guerre. Il faut exploiter d'autres pistes. Faute de quoi, la MONUSCO aura beau se battre et l'est de notre pays sera toujours en insécurité.
Il faut exploiter d'autres pistes, Jean-Jacques Wondo. Est-ce que la piste régionale, par exemple, serait-elle la réponse?
Ben, je pense que l'auditeur a tout à fait raison. Serait une partie de réponse parce que, comme l'a dit aussi le professeur Kabamba tout à l'heure, le problème de l'insécurité est un problème assez trans, frontaliers. Donc vous avez des groupes non seulement locaux, mais d'autres groupes qui bénéficient des appuis et des bases arrières des pays frontaliers. Et quand on parle des ADF Nalu, quand vous essayez d'analyser la structure de fonctionnement des supposés ADF Nalu, vous verrez qu'ils sont établis depuis le Kenya, l'Ouganda, le Congo, le Rwanda et la Tanzanie. Et comment peut-on trouver une solution purement militaire au problème qui secoue l'Est du Congo, alors qu'il y a d'autres aspects, notamment les aspects qui ont été mis en place dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Il y a tout un volet politique, tout un volet diplomatique, tous les autres aspects aussi, des solutions qui ne sont pas que militaires, mais des solutions judiciaires qu'on peut mettre en place. Mais aussi, il y a aussi cette question de comment réfléchir sur la configuration de la mission, le format de la mission. Quand on voit certains militaires, par exemple, moi je reviens sur l'aspect de la MONUSCO, quand on voit certains militaires qui évoluent dans cette zone, et parfois, quand on analyse le type de la menace, ce sont des menaces qui ne nécessitent pas des actions militaires d'envergure, plutôt des actions de caractère policier et des actions qui demandent plus de renseignements. Or ici, nous avons des contingents qui ne sont pas formés dans ces types d'actions, ce qui fait qu'ils perdent un élément essentiel au niveau de la récolte de la d'informations. Surtout que dans ces types, dans la manière dont évolue par exemple l'ADF Nalu, on sait qu'il a une forte ramification avec la population locale, et je l'ai mentionné tout à l'heure, avec des services de sécurité nationaux et de la région, mais aussi avec d'autres groupes. Et là, parler de la question, par exemple, de la mutation des groupes armés qui agissent à l'Est, c'est pas un fait nouveau. On a existé dans cette zone à plusieurs situations de mésalliances et des alliances parfois contre la nature pour la survie ou la transformation de ces groupes. Et ça, ce sont tous ces éléments, tous ces aspects techniques dont il faut prendre en charge quand on fait une analyse globale de la situation. L'aspect militaire ne suffira pas, mais ça peut donner une impulsion. Il y a d'autres aspects judiciaires, notamment le fait d'avoir arrêter par exemple leur chef, ça peut le déstructurer parce que ce groupe-là ne travaille pas de façon pyramidale. Mais il y a encore d'autres stratégies qu'on peut développer pour faire de sorte à trouver une solution qui soit globale, parce qu'il y a d'autres aspects économiques, fonciers et consorts qui peuvent intervenir dans la quête de la situation pour pacifier l'Est du Congo. Alors, qui reste un problème plutôt régional.
Alors, en recoupant les informations, le professeur Bob Kabamba a fait allusion à la naissance d'un nouveau mouvement à caractère régional. Est-ce que vous partagez cette analyse, Jean-Jacques Wondo?
Ben, je pense que l'analyse a un fondement qui ne faut pas négliger, parce que quand on voit la plupart des groupes qui ont évolué, et généralement quand il y a des rébellions, et vous verrez que leurs zones d'action sont souvent des zones de démarcation, des zones qui ne sont pas éloignées des frontières. Pourquoi? Parce que généralement dans le mode opératoire d'une rébellion ou d'un groupe armé, il doit pouvoir avoir une zone de ravitaillement qui soit le pays qui est étranger. Donc il n'est pas exclu que actuellement toutes les informations qui nous parviennent aussi, qui font état de nouveaux groupes armés, peuvent être des groupes armés qui naissent suite à une conjonction de la situation, qui font que certaines personnes qui ont perdu du terrain essayent un peu de s'allier pour mener de nouvelles actions. Voilà. Mais de l'autre côté, il faut dire aussi que depuis la fin du M23, toute l'intention, même au niveau de la préparation ou du conditionnement de la brigade d'intervention, était portée là-dessus. Et après cette attaque, il y a eu un certain relâchement au niveau même de l'action contre ces groupes. Merci. Et c'est là vraiment appel à ce que nous puissions interpeller la MONUSCO, interpeller les autorités congolaises, mais aussi les responsables régionaux, parce que il n'est pas exclu qu'il y ait quelque chose qui se mette en place, qui est un mouvement qui soit en gestation et qui soit soutenu par des pays voisins.
Merci Jean-Jacques Wondo, professeur Bob Kabamba. Nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga.
Nous prenons Kalunga depuis Lubumbashi au Katanga. La guerre dans cette partie du Congo est de près ou de loin une guerre économique. Comment doit-on résoudre une guerre économique militairement? Car le mieux qu'on puisse faire, c'est mettre en amont une contre-attaque forte et en aval un consensus économique international avec l'Occident pour faire de gros investissements auxquels ils ne vont pas permettre la guerre pour détruire leurs avoirs et ressources établies dans cette partie du pays. Si pas ça, nous serons là pour résoudre des crises en crise interminable.
Alors, professeur, serait-on là en train de donner la mauvaise réponse à la mauvaise question quand il dit que c'est une guerre économique et on y répond militairement?
Vous savez que lorsque l'on regarde l'analyse des différents mouvements rebelles, il est un fait que il y a une dimension économique qui est toujours pendant. Parce que tout mouvement rebelle, bien sûr, ne peut subsister que s'il arrive à avoir accès à certaines ressources. Et dans les cas d'espèce, les ressources dans lesquelles ils peuvent avoir accès sont bien déterminées et qui participent à ce qu'on appelle tout le commerce frontalier au niveau de entre le Congo et l'Ouganda. Et ça, il y a manifestement cette dimension qui intervient. Mais ce n'est pas le seul aspect, il y a d'autres aspects qu'on a déjà soulignés, liés à d'autres problématiques, liés aussi à des problématiques ethniques, voisinage, local, etc. Mais sur la dimension économique, bien sûr qu'il y a des armes, bien sûr que tout le monde maintenant, on est convaincu que c'est une des possibilités d'arriver à essayer de mettre fin à ces différents groupes en essayant d'assécher économiquement ces différents groupes avec des mesures qui leur permettent de ne plus avoir accès à ces ressources, mais aussi que ces ressources ne deviennent plus utilisables comme monnaie d'échange au niveau international. Cela passe par notamment ce qu'on appelle le processus de certification qui est en cours d'élaboration au niveau de la CIRGL, où on essaye justement d'arriver à ce que les différents circuits et trafics de mines puissent arriver à être et donc certifiés. Et on peut penser que cette certification va permettre à ce que on va arriver à réduire l'attrait de ces groupes sur les ressources humaines, les ressources naturelles, et que ces ressources naturelles ne vont plus alimenter ces groupes qui alimentent aussi les conflits et les violences.
Voilà, je reçois dans ce studio Berry Franklin Luchaka pour les réactions des auditeurs. Berry, vous avez la parole.
Bonsoir Alain, bonsoir aux invités. Il y a Kassamba Wanango de Bounia qui dit, pour réussir à bouter les ADF définitivement hors de la région de Beni, il faut absolument le concours de la population de cette contrée dont certains de ses membres jouent à la complicité, sinon tous les efforts face à cette guerre asymétrique n'auront pas d'effet majeur. Et puis Papi de Bounia dit, union fait la force, dit-on, le gouvernement ne peut pas refuser la collaboration avec la MONUSCO aujourd'hui, car si la MONUSCO est sur le sol congolais, c'est sur demande du gouvernement, donc pour mettre fin aux forces négatives, la collaboration avec la MONUSCO est obligatoire. Enfin, Kairi Matembera de Kalemi dit, seule l'option militaire sur les ADF et autres groupes armés ne suffit pas. Je pense qu'il faut bien étudier comment combattre aussi ceux qui les soutiennent en commençant par une étude sérieuse, en soit la volonté de s'en débarrasser.
Merci Berry. Professeur Bob Kabamba et Akasamba qui posaient tout à l'heure la question par rapport au concours de la population. Avez-vous l'impression que dans ces opérations, la population est suffisamment impliquée?
Il y a toujours, quand on fait dans l'analyse des conflits, il y a l'élément population, malheureusement, qui joue toujours un rôle. Soit il joue un rôle de victime, puisqu'il subit les violences telles que l'on les connaît généralement dans l'est du Congo, soit aussi la population participe de manière indirecte. Et cette participation de manière indirecte, elle peut être forcée ou volontaire. Ça veut dire forcer, ça veut dire qu'on les force à pouvoir participer et à pouvoir aider les groupes rebelles. Quand elle est volontaire, ça veut dire que c'est la population elle-même qui s'implique et qui apporte un appui au mouvement rebelle. Dans les cas d'espèce ici, on est plutôt en phase d'une participation forcée, puisque si on se limite uniquement sur la dimension Nalu sans tenir compte des différents mouvements, des différents groupes qui ont rejoint ce groupe, on s'en est véritablement dans ce qu'on appelle une participation forcée, c'est-à-dire que les ADF Nalu enlèvent les gens et les obligent à pouvoir les aider, à pouvoir participer aux différents conflits qui sévissent dans le partie de la RDC. Et donc ici, clairement, la population, malheureusement, elle est forcée et aussi elle est victime de la violence telle que nous la constatons.
Voilà, il reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Professeur Bob Kabamba, répondez brièvement, je vous prie, à la question de Robert de Bukavu qui dit « Je pense que l'attitude de la MONUSCO suffirait à donner raison au gouvernement qui voulait dernièrement que la MONUSCO cesse ses interventions en RDC. Autant dire que mieux vaut que la RDC, dans sa lutte pour la paix et la sécurité, s'assume que d'être accompagnée par la MONUSCO. »
Je pense que les résultats pour les populations civiles ne peuvent être obtenus que grâce à la coopération entre la MONUSCO et les RDC. Je ne peux pas revenir sur l'histoire parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps, mais souligner simplement que lorsque la MONUSCO travaille avec les RDC, il y a des résultats palpables pour les populations locales et il y a un mieux au niveau de la sécurité. Je ne peux que demander au niveau de la MONUSCO de faire des efforts pour renouer avec les RDC.
Général Jean Bayou, nous tendons vers la fin de l'émission. Comment entrevoir la suite des opérations dans cette zone de Béni?
Je pense que les différents intervenants ont donné avec beaucoup d'expertise, ainsi que les auditeurs ont donné avec beaucoup d'expertise des éléments très importants qui peuvent effectivement être une base pour déterminer la suite des opérations. Moi, je me permettrai simplement peut-être de souligner très rapidement certains éléments. La première, c'est que effectivement, il y a une très forte attente d'une collaboration optimum et d'un appui effectif de la MONUSCO, d'un appui efficace. Je pense qu'il y a une très forte attente de la part des populations. Il y a une très forte attente aussi de la part de tous les acteurs sécuritaires congolais d'être soutenus de manière temporaire, mais efficace par la MONUSCO. Nous avons le mandat, nous en avons les moyens, et nous savons que lorsque nous travaillons ensemble, comme on l'avait fait pour le M23, nous sommes extrêmement efficaces. Donc là, j'espère que ces questions effectivement d'appui et d'optimisation, on va dire, de notre façon de travailler ensemble vont pouvoir se faire. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut peut-être ne pas se laisser impressionné par des actes qui sont effectivement criminels, qui nous touchent, mais penser d'abord à notre détermination qui doit être effectivement très forte et qui doit dépasser effectivement les petites incompréhensions et répondre, je pense, à ce qui est non seulement entendu par les populations, mais ce qui, en tant qu'acteur extérieur, mais acteur quand même très fortement impliqué dans la sécurisation de cette partie du pays,
en guise de conclusion,
je pense que les gens doivent croire que notre action conjointe va porter ses fruits. Merci. Et va permettre d'éliminer ce mal dans l'est du pays.
Merci Général Jean Bayou. Jean-Jacques Wondo, comment vous entrevoyez la suite des opérations dans cette zone de Béni?
La suite des opérations, c'est d'abord commencer par une étude globale de la menace plutôt que faire des attaques au coup par coup, parce que le problème de la mobilité de ce groupe ou de la zone de l'insécurité qui est assez large, on ne peut pas faire des opérations assez cloisonnées. Il faut aussi, en deuxième lieu, essayer de revoir la doctrine de l'emploi des forces de la MONUSCO, parce que, comme je l'ai dit, nous assistons plutôt à des types de conflits qui sont des basses intensités, qui nécessitent pas des moyens militaires. Je sais qu'au niveau de l'ONU, on est en train de réfléchir même pour augmenter les capacités des forces de police, parce que quand je dis forces de police, ils ont un élément, un facteur important, c'est qu'ils apportent du qualitatif au niveau du renseignement. De l'autre côté, il ne suffit pas de collaborer pour dire que voilà, si la collaboration entre la MONUSCO et les FARDC, que les choses vont marcher, certes ça a marché, parce qu'il y avait une volonté politique en 2013 contre le M23, mais ne pas perdre de vue que depuis les opérations Umoja Weto, il y a eu ce soutien de la MONUSCO, mais tous les résultats de ces opérations n'étaient pas aussi efficaces qu'on ne le pensait.
Merci. Professeur Bob Kabamba, conclusion.
Conclusion, c'est-à-dire simplement qu'il y a une dimension régionale sur laquelle il est important de pouvoir travailler. La solution ne viendra pas de la seule République démocratique du Congo, mais il faut l'implication des autres pays de la région.
Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. La rediffusion est à 4h15, heure de Béni. Vous pouvez retrouver cette émission sur radiocapi.net. Merci de votre attention. Au revoir.